La première.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Le 3 novembre 1793, vers 17h, place de la Révolution à Paris, une femme monte sur l'échafaud. Juste avant d'avoir la tête tranchée, elle prononce ses dernières paroles. « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort ». Elle a 45 ans, elle s'appelle Olympe de Gouges. Son crime, avoir remis en question l'autorité de la République et surtout, oser écrire 2 ans plus tôt la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une femme contre son temps, donc, que l'histoire aura malmené pendant près de 2 siècles. Et pourtant, sans Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir n'aurait peut-être pas écrit son deuxième sexe. Aujourd'hui, 230 ans après sa disparition, des voix s'élèvent qui réclament son entrée au Panthéon.
La révolution ne s'opérera que quand toutes les femmes seront pénétrées de leur déplorable sort et des droits qu'elles ont perdus dans la société.
Avec ici un extrait de la pièce Olympe de Gouges, porteuse d'espoir d'Annie Vergre avec nous aujourd'hui, Valérie André. Bonjour Valérie André.
Bonjour.
Historienne de la littérature, spécialiste du XVIIIe siècle, vous travaillez à l'ULB notamment. Vous étiez venue d'ailleurs pour Marie-Antoinette. Hein. Oui. On se retrouve ici à peu près dans la même période avec Olympe de Gouges, un personnage assez mal connu, on l'a dit, on va le voir, qu'elle a été malmenée par l'histoire. Alors elle est née le 7 mai 1748 à Montauban, elle s'appelle en fait Marie Gouges. Alors déjà, sur ses origines, un doute semble-t-il plane.
Oui, un doute plane parce que elle en était persuadée, et beaucoup de ses contemporains aussi, elle aurait été, très probablement, la fille naturelle de Lefranc de Pompignan. Lefranc de Pompignan, qu'on connaît mieux aujourd'hui pour avoir été l'une des Turcs de Voltaire, mais qui était un auteur bien connu de son temps, qui était une personnalité remarquable, qui avait en effet entretenu une relation amoureuse avec la mère de l'homme de Gouges.
C'est une petite bourgeoisie, c'est ça ?
Oui, c'est une petite bourgeoisie, mais qui va devenir... Enfin, Lefranc de Pompignan, lui, appartient quand même à l'aristocratie. Ouais. Le milieu d'où vient Olympe appartient en effet à la petite bourgeoisie. Le père officiel, ouais, si vous voulez, est boucher à Montauban. La famille Lefranc de Pompignan, elle, a quand même des quartiers de noblesse plus appréciables.
Alors, on va la marier très jeune, Olympe de Gouges. Elle a 16 ans, je crois.
Oui, elle est mariée, comme beaucoup de filles de son âge et de sa condition, sans qu'il y ait spécialement d'attirance réciproque entre les deux époux. Le monsieur Aubry, auquel elle est mariée, ne vivra pas très longtemps.
Il va se noyer dans le Tarn, paraît-il. Voilà, il est beaucoup plus âgé qu'elle.
Il est beaucoup plus âgé. Elle aura un fils, Pierre Aubry, qui fera une carrière dans l'armée. Mais voilà, elle se retrouve, j'ai envie de dire, rapidement libérée de ces conditions matrimoniales, car en effet, pour les femmes de cette époque, le veuvage constitue une sorte d'émancipation légale.
Et elle ne va jamais se remarier.
Elle s'en mariera
jamais. Son idée sur le mariage, d'ailleurs, est très précise.
Ah, tout à fait. Elle a une vision extrêmement moderne sur le mariage, qui n'est pas, au fond, opposée à l'institution en tant que telle, mais qui est le reflet de l'institution de son temps. C'est-à-dire que mariage et amour sont en général peu compatibles, puisqu'il s'agit souvent d'unions plus financièrement intéressantes que sentimentalement. Et surtout, c'est une union totalement inégale, puisque la femme n'y a pas vraiment de droit. Et donc, pour Olympe, femme qui s'appelle encore Marie à ce moment-là, l'idée, ce serait plutôt une sorte de contrat civil entre les époux, ou les concubins.
On va voir d'ailleurs, contrat civil, une sorte de, on dirait aujourd'hui, de pax.
De pax, oui, voilà.
On va voir que d'autres idées qu'elle aura, Olympe, sont très en avance sur son temps. Elle dit du mariage religieux, c'est un tombeau de la confiance et de l'amour. Alors, elle va quitter Montauban, elle rejoint sa sœur à Paris, on est au début des années 1770. Elle y va avec son fils, qui va recevoir une bonne éducation. Et donc, elle change de nom, c'est une sorte de manifeste d'indépendance, là.
Oui. Elle change de nom et finalement pas de manière aussi narcissique qu'on a pu le dire ou le présenter en tout cas dans la littérature du 19e siècle. Le prénom Olympe, c'était le prénom de sa mère qu'elle va coller au sien. Quant à la particule rajoutée, bah, y a beaucoup de roturiers de cette époque qui ont fait la même chose. Ah. Pensons à Voltaire, qui s'appelait quand même François-Marie Arouet, qui s'est lui aussi octroyé une particule. C'était quelque chose d'assez courant. Et quant au changement de patronyme, il semble que la prononciation de l'époque a été assez fluctuante, et que Gouze ou Gouge, d'ailleurs, on trouve les orthographes. Donc, quelque part, elle a simplement un petit peu transformé son véritable nom.
Elle a écrit donc la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges, aujourd'hui, un jour dans l'histoire.
Bonjour à tous.
Olympe. Tiens, Fred. Je te présente mon ami Olympe.
Enchanté, Olympe.
Assieds-toi.
Ariane m'a dit que vous défendez la cause des femmes.
Oui, j'essaie de les engager dans le combat révolutionnaire, mais... Enfin, j'essaie. J'ai écrit 12 pamphlets cette année. Le dernier s'intitulait « La France sauvée par les femmes ». J'ai bien peur que ça n'ait pas beaucoup plu à nos législateurs.
Vous êtes journaliste, en quelque sorte.
Oui, si on veut, mais on a interdit la publication de mon dernier journal qui s'appelait pourtant « Le journal du peuple ».
La Révolution française, c'est un film de Robert Henrico, Olympe de Gouges avec nous aujourd'hui, Valérie André pour nous guider sur ce parcours extraordinaire, hein, historienne de la littérature, Valérie André, je le rappelle, spécialiste du 18e. Alors, Olympe de Gouges arrive vers 1770 à Paris. Elle a des moyens de subsistance, Olympe de Gouges.
Elle a des moyens de subsistance dans la mesure où elle va rencontrer quelqu'un qui est assez fortuné et qui va l'entretenir, comme c'est souvent le cas. Elle va aussi en subir des désagréments parce que cet homme qui lui avait apporté une certaine aisance va aussi la ruiner par la suite puisqu'il va lui-même connaître des malchances financières. Disons que oui, elle a des biens qui lui permettent, elle n'est pas riche, mais elle a une aisance tout à fait remarquable pour son époque, qui lui permet en tout cas de fréquenter une certaine société et surtout de fréquenter les milieux du théâtre dans lesquels elle espère vraiment se faire une place. C'est quelqu'un qui n'est pas d'une grande modestie. Et cette confiance en elle, ce sentiment d'avoir un rôle à jouer à la fois en tant qu'auteur dramatique et puis après en tant que femme politique, va sans doute aussi contribuer à sa perte dans le regard des révolutionnaires qui sont tout sauf féministes ou proto-féministes.
On verra que la révolution reste sexiste malgré tout.
C'est très clair, oui. Ouais.
Douée d'une grande énergie, Olympe de Gouges, exaltée même.
Oui, c'est comme ça qu'on la dépeint en tout cas. Elle se dépeint elle-même comme cela... Elle semblait partir dans des... Enfin, c'est quelqu'un d'assez sanguin, visiblement. Hein. Ah. Elle avait des coups de colère ou des inflammations enthousiastes qui lui faisaient écrire des choses d'un jet de plume, comme elle le dira, ou s'exclamer violemment, parfois avec une certaine outrance et parfois sans mesurer aussi les conséquences de ses paroles et de ses actes.
Elle va fonder une troupe et très vite donc ses écrits vont défriser la maréchaussée. La première de ses pièces s'intitule Zamor et Mirza ou l'heureux naufrage. Là on est en 1785 et elle traite d'un sujet tabou à l'époque.
Elle traite d'un sujet tabou et sans doute aussi cet élément-là a été le début de la fin si je peux dire, puisque Olympe de Gouges dans cette pièce que vous venez de signaler, traitait de la question de l'esclavage et surtout de la maltraitance des Noirs par les colons. Et il faut savoir que l'Europe continentale a quand même, et y compris la France des Lumières, énormément d'intérêt dans la traite des Noirs. Et donc se retrouver face à une pièce qui non seulement dénonce l'inhumanité du traitement fait aux hommes de couleur, mais surtout l'idée que dans la pièce, le personnage commet un assassinat et malgré tout recueille l'adhésion du public, si vous voulez, va être perçu comme très, très, très scandaleux. L'avance déjà des éléments qu'on retrouvera plus tard chez ceux qui s'appelleront la Société des Amis des Noirs, auquel elle va participer également. Et on retrouve déjà chez Olympe de Gouges des textes ou des théories qu'on retrouvera chez Condorcet, par exemple.
Évidemment, ça, vous l'avez dit, ça fait scandale. Il y a même des pugilats, aux représentations. La pièce est interdite, je pense.
La pièce est interdite. Il faut dire que Olympe entretenait une relation extrêmement houleuse avec les comédiens français. La comédie française française avait un monopole à cette époque, avant la libération des théâtres. Et bon, c'est vrai que les comédiens faisaient un petit peu la pluie et le beau temps sur le répertoire. De surcroît, le droit d'auteur n'existe pas. Donc, beaucoup d'auteurs sont floués sur le plan financier. Et bon, bah, il va y avoir quand même de plus en plus des récriminations d'auteurs qui donneront naissance à la fameuse Société des auteurs et aux récriminations de Beaumarchais, avec lequel d'ailleurs Olympe n'avait pas de très très bonnes relations. Mais en tout cas, c'est très clair que les comédiens avaient un droit, j'ai envie de dire, de vie et de mort sur les pièces qui étaient soumises à leur approbation. Et cette fois, non seulement, bon, elles s'étaient déjà attirées l'inimitié de certains d'entre eux par des prises de position, mais surtout, il y avait une sorte de lobby, dirait-on aujourd'hui, de la part des colons, qui étaient quand même les grands clients de la Comédie française. Et donc, on ne voulait pas choquer ces spectateurs.
On va voir qu'elle va écrire d'autres textes, des textes qui sortent du cadre strict de la littérature, hein, des textes beaucoup plus franchement politiques. On est avec Valérie André aujourd'hui.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Salut Ariane, bonjour Olympe. Non, j'étais en train de penser tout haut à la déclaration des droits de l'homme. Vous avez vu, ils l'ont placardé partout.
Ah oui, ça on l'a vu, hein. Et bientôt, on va pouvoir afficher aussi la déclaration des droits de la femme.
Non.
Si.
Mon ami Olympe, on a commencé la rédaction.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Écoute un peu. Vas-y, Olympe, lis-lui un passage.
Bon, alors juste un passage parce que j'ai rendez-vous. Article 10, par exemple. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit aussi avoir le droit de monter à la tribune.
Bravo.
Pas mal.
Et voilà.
La Révolution française, c'est encore le film de Robert Henricot. On va y arriver à cette déclaration de la citoyenne, de la femme et de la citoyenne avec vous, Valérie André et Olympe de Gouges, bien sûr. Alors, on l'a dit, elle va se consacrer à des textes plus directement politiques. Elle publie des brochures qui sont publiées. Donc, qu'est-ce qu'elle dit dans ces textes-là?
J'ai envie de dire que tout est politique chez Olympe de Gouges, hein, y compris son œuvre dramatique. On l'a vu avec la question de l'esclavage des Noirs. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle va prendre position, justement, pour le mariage civil, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, pour le divorce aussi, hein, en disant que finalement, c'est quelque chose d'assez tardif que d'avoir empêché le divorce, pour les droits de la femme à disposer d'elle-même et de ses biens, ce qui est extrêmement novateur aussi. On oublie aujourd'hui que le fait de pouvoir ouvrir un compte en banque pour une femme sans l'autorisation de son mari est finalement quelque chose d'assez peu ancien. Hein. Donc voilà, ça date du milieu du XXe siècle, tout ça. Donc elle était très, très revendicatrice par rapport à ça.
Le divorce, au fond, c'est le seul droit que la Révolution va octroyer à la femme, si j'ai bien compris.
Parce qu'elle l'octroie seulement à la femme. Ouais. Hein. C'est ça aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs auteurs qui ont rejoint les protestations de l'âme de Gouges, dont Louvet de Couvray, d'ailleurs, un écrivain girondin qu'elle connaissait bien et qu'elle avait fréquenté aussi dans les salons de la Gironde. Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que la Révolution a beaucoup promis aux femmes, en tout cas la première Révolution. On s'est imaginé justement que ce caractère indivisible des droits universels du citoyen englobait de facto la citoyenne. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas. Et la radicalisation de la Révolution, et surtout la prise de pouvoir par Robespierre, va complètement cadenasser les femmes, les renvoyer chez elles.
Et on va voir qu'en s'en prenant à Robespierre, Olympe de Gouges sans doute commet une grave erreur. Mais ces revendications ne concernent pas que la femme, ce sont des droits beaucoup plus larges, ce sont des réformes sociales, sociétales qu'elle propose.
Ce sont des réformes sociales, ce sont des réformes qui touchent aussi à l'organisation de l'État. Et ça, dans votre présentation, vous l'avez annoncé. Hein, c'est vrai que la Déclaration des droits de la femme, c'est le texte qu'on retient majoritairement aujourd'hui. Mais sans doute avait-il été précédé par Zamor et puis surtout par tous ces pamphlets dont elle a inondé la capitale. Elle a dû quand même un peu fatiguer l'Assemblée nationale, surtout qu'elle n'y allait pas de main morte dans son expression, si vous voulez. Mais ce qui a véritablement marqué son arrêt de mort, c'est un texte tardif qui s'appelle « Les trois urnes », dans lequel elle proposait, au fond, un choix à la France entre un gouvernement monarchique constitutionnel, tel qu'il avait été prévu par la première révolution de 1791, et puis un gouvernement fédéral, ou le gouvernement républicain. Or, nous étions à ce moment-là en pleine terreur, au moment où la République devait être une et indivisible, et où les factions se divisaient, où les montagnards accablaient les Girondins en les accusant de fédéralisme, c'est-à-dire de vouloir donner un pouvoir réel aux régions, dirait-on aujourd'hui.
On va juste repréciser le contexte. Alors, avec vous, Valérie André, les montagnards, les Girondins ?
Les montagnards et les Girondins sont deux force, si vous voulez, qui s'opposent dans l'Assemblée nationale. Alors, d'où vient leur nom ? Les Montagnards, c'était simplement parce que ces députés avaient l'habitude de s'installer dans le haut de l'hémicycle. Quant aux Girondins, en effet, les représentants de ce courant de pensée étaient tous plus ou moins originaires de la région de Bordeaux et donc de la Gironde. Et donc, ce nom leur est resté. Globalement, on nous parle des Jacobins. On va dire qu'il y a deux grands groupes. Bon, je résume un peu. Hein. C'est une période très complexe, mais deux grands groupes qui s'affrontent. Et donc, d'un côté la montagne et de l'autre la Gironde. Et c'est la Gironde qui va perdre la bataille.
Et Olympe est une Girondine. Hein.
En tout cas, une sympathisante.
On reviendra tout à l'heure aux trois urnes, là, ce texte des trois urnes, c'est ça. Hein. Mais ces réformes sociales, là aussi, elle est très très en avance. Elle parle d'assistance publique, enfin pour les veuves, pour les orphelins, les vieux. Elle propose une sorte d'impôt patriotique.
Ça, c'est extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est... c'est étonnant, parce qu'on ne pourrait pas dire que c'est une femme de gauche au sens actuel du terme. C'est quelqu'un qui reste monarchiste assez longtemps, qui le demeure, monarchiste constitutionnel en tout cas, avec un certain idéal aristocratique. Il y a aussi tout le problème avec le père putatif dont on a parlé tout à l'heure. Mais il y a chez elle un sentiment vraiment patriotique, où elle estime que, justement, toutes les personnes fortunées devraient spontanément faire don d'une partie de leur fortune, et en particulier les femmes. Elle va les exhorter à donner leurs bijoux et une partie de leur argent. Elle va même écrire à la reine, Marie-Antoinette, qui va participer à cet écho en versant une somme à cet impôt.
Une sorte d'impôt sur la fortune, au
voilà,
fond.
Voilà, c'est un... Oui, on peut dire ça, oui.
Un jour dans l'histoire, aujourd'hui, on s'intéresse au parcours d'Olympe de Gouges avec Valérie André, qui est avec nous. Valérie André, historienne, spécialiste de la littérature du 18e à l'ULB.
Le mouvement de libération des femmes se concrétise en 1970 avec la création du MLF. Nous ne sommes pas des poupées, crie-t-on dans la rue. Un quart de siècle s'est écoulé depuis la bataille des suffragettes pour le droit de vote.
Revendiquer notre droit d'exister en tant que personne. On voulait avoir le droit d'être des personnes à part entière, des citoyennes à part entière, ce qui n'était pas le cas.
On est exploité à la maison, on est exploité au travail, on ne touche pas les mêmes salaires que les hommes, au travail.
Ça, vous avez parfaitement raison.
Voilà, des femmes enchaînées, des femmes déchaînées. C'est un documentaire de France 3, des femmes déchaînées. Sans doute, Olympe de Gouges y a-t-elle contribué ? Nous sommes au siècle des Lumières, donc avec Olympe de Gouges. Un siècle qui fait la part belle au salon, hein, où on échange des idées, au salon littéraire notamment. Alors Valérie André, quels sont les rapports justement d'Olympe de Gouges avec ces sortes de réseaux au fond ?
Ah, ils sont assez importants. On va voir une transformation assez fascinante de ce type de sociabilité au moment de la Révolution. On a longtemps imaginé justement que parce que l'aristocratie était abolie, parce que voilà, on était trop occupé avec des questions politiques, bah, ces réunions entre guillemets futiles ou intellectuelles disparaîtraient. Ce n'est pas le cas. Simplement, elle se modifie. Alors, il y a l'apparition de tous ces clubs qui vont émerger. Il y a aussi l'apparition de loges d'adoption pour les femmes, puisque la maçonnerie reste un secteur réservé aux hommes. Ouais. Il y a aussi des réunions plus informelles dans des milieux qui ne sont pas forcément aristocratiques, qui sont des milieux du théâtre ou en tout cas du milieu intellectuel, où on va continuer à avoir ce type d'échange Et donc, oui, Olympe de Gouges va participer à toute une série de rencontres chez ses contemporains, que ce soit Madame Talma, donc l'épouse de Talma, le comédien, qui allait devenir le grand comédien de Napoléon, que ce soit chez Fanny de Beauharnais, qui d'ailleurs est apparentée aussi à Napoléon Bonaparte, hein, par sa famille, voilà, par sa famille de Beauharnais, et qui elle-même a un parcours assez similaire à celui d'Olympe, puisqu'elle est elle aussi femme auteure, qu'elle est elle aussi proto-féministe, et qu'elle a les mêmes amitiés littéraires et politiques.
Alors précisément, est-ce que Olympe de Gouges est seule dans ce combat ou est-ce qu'il y a des femmes qui
non,
la soutiennent ?
Qui la soutiennent. Je n'aimerais pas faire un anachronisme et imaginer un mouvement. Ouais. Vous voyez, on va dire qu'il y a des personnalités qui vont aller dans cette mouvance-là. Il y a certaines femmes qui ne sont pas forcément les plus nombreuses. Les femmes ne sont pas toujours les plus féministes. Elle en était tout à fait consciente, d'ailleurs. Non, mais il est clair que des personnalités comme Fanny de Beauharnais, que je citais ici, personnalités comme Sophie de Condorcet, qui avait aussi un impact très fort, comme Etta Palme, donc une révolutionnaire hollandaise, ou quelqu'un comme Constance de Salm, vont dans la même mouvance que Fanny. Certains hommes aussi, hein, je vous parle de Condorcet parce que c'est sans doute l'un des penseurs les plus progressistes de son temps. Quelqu'un comme Laclos aussi avait été très très favorable à l'émancipation, en tout cas à l'éducation des femmes. Donc on a un mouvement là à la fin du XVIIIe siècle qui va dans ce sens, mais qui va se retrouver très rapidement emmuré par un diktat de part et d'autre. À la fois de la part de certaines femmes elles-mêmes qui estiment que finalement c'est pas le rôle de la femme d'avoir une place dans la vie civile. On fait vraiment une opposition entre le privé et le public. La femme est maître chez elle, mais elle n'a pas à prendre la parole sur la sphère publique. Et puis, toute une série, justement, d'hommes politiques et d'écrivains qui estiment que les femmes doivent être renvoyées à leur quenouille. C'est le moment où on va assister au réveil de ce qu'on appelait la querelle des femmes et où on va voir toute une série d'auteurs dire que finalement, les femmes sont là pour inspirer les poètes.